Bonjour. Comme chaque mercredi à 18h, on vient vous parler de la Palestine et des activités qu'on organise dans la région pour défendre les droits palestiniens, surtout pendant cette période et période très très difficile qu'on vit tous. Cette émission elle est présentée par plusieurs associations comme Palestine 13, BDS Provence, Marseille Gaza Palestine. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, la page Palestine 13, ou la page BDS Provence, ou la page aussi Marseille-Gaza-Palestine, ou aussi en tapant Palestine 13 sur les moteurs de recherche. Cette semaine, on a choisi de vous parler de vous présenter le portrait d'un criminel de guerre, celui de Netanyahu, qui règne depuis 15 ans sur la société israélienne de plus en plus droitisée. Bon suivi, merci, au revoir.
C'est l'homme le plus puissant d'Israël. Cela fait plus de 15 ans au total que Benjamin Netanyahou gouverne l'État hébreu.
La société israélienne est suffisamment folle pour le maintenir.
Bourreau des Palestiniens.
I, the Prime Minister of Israel, care more about Palestinians than their own leaders do.
Mais aussi bourreau des Israéliens.
Madame, Monsieur, bonsoir. Le Premier ministre israélien Isaac Rabin a été assassiné ce soir à Tel Aviv.
Ce qu'il faut comprendre, et Netanyahu et sa coalition doivent comprendre, qu'il n'aura jamais une solution militaire à la question palestinienne.
Netanyahu a une vision qui est extrêmement binaire des choses.
Anachnu bnei haor, hem bnei hachoshech, vehaor yinatzach et hachoshech.
Netanyahu n'est pas quelqu'un qui souhaite véritablement, c'est évident, hein, mais œuvrer pour le bien commun et la vérité. C'est quelqu'un qui est un pur manipulateur politique et intellectuel et il est prêt à tout pour faire asseoir son opinion.
Depuis sa plus tendre enfance, il n'a qu'un rêve, voir ressurgir l'ancien royaume d'Israël. Pour cela, il est prêt à tout.
Hitler didn't want to exterminate the Jews at the time, he wanted to expel the Jews.
Maître dans l'art de la survie politique, il n'a pas hésité à s'associer avec les religieux les plus extrémistes pour se maintenir au pouvoir.
Netanyahu et ses ministres d'extrême droite ne sont pas intéressés à la paix telle qu'elle est décrite dans le livre d'Isaïe. Ils ne sont pas intéressés à une forme de coexistence pacifique avec les Palestiniens.
Découvrez l'homme qui incarne l'extrême droitisation de la société israélienne.
Il y a une blague très rigolote en Israël qui dit « Comment sait-on quand Netanyahou ment ?» C'est quand ses lèvres bougent.
Dès la fin des années 70, alors qu'il réside aux États-Unis, Benjamin Netanyahou s'oppose déjà à toute création d'un État palestinien.
Do the Palestinians have a right to a separate state?
Well, I think that it's... No, I don't think they do. But Jordan is a Palestinian state. So what we're talking about is a demand for a 22nd Arab state and a second Palestinian state.
Une doctrine et une conviction politique qu'il tient de son père, Benjamin Netanyahu, admirateur des régimes autoritaires, notamment de Mussolini et du fascisme. On le voit ici, âgé de 100 ans, lors d'un reportage consacré à sa gloire.
Je m'appelle Sylvain Sipel, je suis journaliste. J'ai été à Courrier International, que j'ai dirigé, et puis j'ai été 20 ans, près de 20 ans au Monde également.
Le père Netanyahou, c'est un fasciste sincère. La proposition fasciste, elle lui convenait tout à fait. Quand le fascisme émerge dans les années 20, il adhère totalement au fond politique, idéologique du fascisme. Il éduque ses enfants dans cette pensée-là. Et ça ne l'abandonnera jamais. C'est un homme qui, après la naissance d'Israël, est parti d'Israël parce qu'il détestait les sionistes socialistes, car il n'y avait rien de plus détestable au monde que le socialisme.
Son père était un membre donc précisément de la fraction ultranationaliste du sionisme. Ce qui caractérise la droite nationaliste sioniste, c'est qu'à aucun moment, ils n'ont accepté l'idée du partage. La Grande Palestine devait être pour eux et seulement pour eux. C'est ça l'éducation de Netanyahou. Il est dans ce bain-là. Et il est dans ce bain-là depuis sa prime enfance, en réalité. Donc, si vous demandez d'où il vient, ben voilà, il vient de ça. Et il va le conforter au fil de sa vie et de sa carrière politique.
Le 27 juin 1976, un événement va accélérer la stratégie politique de Benjamin Netanyahou. Un vol Air France contenant des Israéliens est détourné par des membres du Front populaire de libération de la Palestine. Son frère aîné, Yonatan, qui participe à la libération des otages, meurt dans l'opération un mois plus tard. Netanyahou et son père vont alors fonder un institut qui porte son nom, le Yonatan Institute. Leur but ? Ôter toute possibilité de revendication politique aux actes terroristes. Les définir uniquement comme une arme dont la seule revendication serait de détruire Israël et l'Occident.
C'est-à-dire que ce qui était une arme utilisée par des mouvements qui vont de l'anarchisme jusqu'à l'extrême droite à travers l'histoire, en passant par les mouvements nationalistes, etc., etc., cessait d'être un instrument pour devenir une théorie. Le stigmate terroriste devenait le stigmate définitif, que ce soit pour la haine du juif ou la haine de la démocratie ou la haine de... peu importe. Mais quand on était qualifié de terroriste, à ce moment-là, on perdait toute légitimité. Du point de vue israélien, le terroriste, c'est quiconque est hostile à la politique israélienne. C'est évidemment les Palestiniens qui luttent pour récupérer leurs terres, ou au moins pour créer un État à eux. Mais les terroristes se sont très naturellement et vont être traités de terroristes ou de suppôts du terrorisme, de tout ce que vous voudrez, ceux qui ne suivent pas cette idée parce que le terrorisme est une seule et même catégorie.
C'est un peu comme si on disait au final que le Front de Libération Nationale Algérien, l'Irish Republican Army ou encore le Front de Libération de la Palestine n'avaient pas d'aspiration politique différente et que leur seul but était de détruire ce que Netanyahou appelle le monde civilisé.
C'est une catégorie sans caractéristiques politiques autres que celle d'être terroriste. Ça, c'est l'Institut Yonatan qu'il avait fondé avec son père qui sont les premiers à avoir fait campagne. Et leur impact et leur influence sur les néoconservateurs américains a été très importante.
C'est ainsi que Mandela, leader de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, va être qualifié de terroriste par les Américains dans les années 80.
Et quand survient le 11 septembre, un important politicien israélien a dit que le 11 septembre, c'était le Hanouka d'Israël. Il n'y avait pas de fête aussi belle que ça. C'est-à-dire que là, Israël avait fait la démonstration que le terrorisme est devenu l'incarnation du mal. On est terroriste, on est EST, on est NAIT. On est comme ça.
This is a regime that has something to hide from the civilized world. States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world.
Je suis Thomas Vescovi, chercheur indépendant, spécialiste d'Israël et des territoires palestiniens occupés. On a là, si tu veux, toute une espèce de mantra qui va se mettre en place progressivement et qui va permettre de faire intérioriser aux jeunes israéliens le fait que quand ils vont faire l'armée, ils ne doivent pas se poser de questions sur la justesse ou non de la cause. Ils font l'armée parce qu'ils sont l'avant-garde d'une lutte occidentale contre le terrorisme. Le Palestinien qu'ils vont avoir face à lui, ce n'est pas quelqu'un qui peut se soulever demain pour sa liberté, c'est quelqu'un qui vous en veut parce que vous êtes Israël et vous êtes même juif. C'est extrêmement puissant comme mentalité. Et c'est puissant parce que du 11 septembre 2001
au 13 novembre 2015 en France, les Israéliens vont avoir l'idée qu'en fait, eh bien voilà, les Occidentaux font face au même mal que nous. C'est-à-dire que, un petit peu comme Sharon l'avait dit à l'époque, Arafat, c'est notre Ben Laden. C'est-à-dire qu'en gros, les Palestiniens, en fait, c'est faux. C'est pas un mouvement de libération qu'ils ont en tête, c'est surtout un mouvement terroriste qui veulent nous détruire et nous anéantir.
Dès que les gens se sont révoltés, on les a traités de terroristes, évidemment. Et tout ça a été fait pour garder la maîtrise des territoires. On expliquait par mille motifs, y compris par des motifs sécuritaires. Mais la raison fondamentale, c'est qu'on voulait garder les territoires.
En 1993, un processus de paix est engagé entre Yitzhak Rabin, premier ministre israélien issu de la gauche travailliste, et Yasser Arafat, président de l'autorité palestinienne. Ce sont les accords d'Oslo.
Hala Abou Hassira, je suis l'ambassadrice de la Palestine en France. Je me souviens très bien ce jour-là, le jour de la signature des accords d'Oslo. J'avais 17 ans, à peu près, 17 ans. Et j'avais commencé à avoir une conscience politique, une conscience de problèmes politiques, de la question de peuple palestinien, de l'occupation israélienne. Bien sûr, après 7 ans d'une intifada, de enfin pouvoir concrétiser la paix, concrétiser un État palestinien indépendant et souverain, et concrétiser une coexistence entre les deux peuples, le peuple israélien et le peuple palestinien. C'était un vrai moment d'espoir pour tout le monde. Beaucoup doutaient ce processus, mais beaucoup espérer que ce processus enfin permettrait à la concrétisation de la paix, d'une paix durable et compréhensif dans la région, non seulement en Israël et la Palestine. On a choisi le rêve de rêver, parce que je me suis dit personnellement qu'on a autant souffert pendant des décennies de cette occupation de la Nakba palestinienne, et on avait droit enfin à rêver de cette paix, à rêver de notre liberté et à la faire concrétiser. Pour moi, c'était ça en ce moment-là.
Face à Rabin, Netanyahou, alors chef du Likoud, parti nationaliste très à droite, s'associe aux colons pour s'opposer aux accords d'Oslo.
C'est quelqu'un qui avait été ambassadeur à l'ONU pour Israël depuis 1984, qui avait pris la tête du Likoud depuis à peu près le début des années 90, et qui est en Israël l'un des fers de lance de la contestation contre Yitzhak Rabin, dans des manifestations qui sont extrêmement violentes et virulentes de la droite, qui expliquent que Rabin est en train de faire un accord avec des terroristes, avec des gens antisémites avec qui ils ne vont pas avoir confiance, hein, Arafat notamment. Et c'est également un courant politique qui va véritablement fracturer le champ israélien de la société israélienne, c'est-à-dire en diabolisant Rabin, en le caricaturant avec un kéfier, en officier SS. Donc vraiment, on crée un climat de tension permanent.
Netanyahou avait un slogan qui était à la fois un slogan antidémocratique et un slogan raciste. C'est-à-dire qu'il disait dans sa campagne contre Rabin, pour refuser l'accord d'Oslo, qu'il considérait comme une trahison. C'est-à-dire que l'accord d'Oslo était supposé mener à la chose qui était la pire aux yeux de Netanyahou, c'est-à-dire l'existence d'un État palestinien à côté d'Israël. Et de ce point de vue-là, Netanyahou disait « Rabin a une majorité au Parlement, mais il n'a pas une majorité juive. » Et il y a deux choses qu'il faut dire, c'est que quand on dit ça, eh bien, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'en fait, les voix des non-juifs au Parlement. Il y a 20%, à peu près 20% de Palestiniens en Israël, eh bien, il ne faut pas les prendre en compte. Et dans les 80% qui restent, eh bien, Rabin n'a pas une majorité. Mais ça, en même temps, ça veut dire qu'il y a des citoyens qui n'ont pas les mêmes droits. Ça veut dire qu'il y a des gens qui comptent et ceux qui ne comptent pas. Les Juifs comptent, pas les autres. Or, l'État et la citoyenneté est supposée être égale pour tous.
Ce climat de tension mène à l'élimination ou l'assassinat d'Isaac Rabin le 5 novembre 1995.
Madame, Monsieur, bonsoir. Le Premier ministre israélien Isaac Rabin a été assassiné ce soir à Tel Aviv.
Nous étions en train de raccompagner le Premier ministre à sa voiture et un type a surgi, a tiré trois balles sur lui, il est blessé.
Atteint à la poitrine et à l'abdomen, Isaac Rabin est décédé une heure plus tard sur la table d'opération.
Et cette élimination devait signer quelque part même la fin de la carrière politique de Netanyahou, parce que sa grande idée, qui est que le terrorisme qui nous menace est un terrorisme arabe, palestinien, s'effondre quand l'assassin de Rabin est un extrémiste juif.
Quelques minutes après l'attentat, l'assassin vient d'être maîtrisé. C'est l'homme à la chemise bleue plaqué contre le mur par les policiers. Il s'agit d'un Israélien de 27 ans, étudiant en droit dans une université religieuse.
Ce terroriste-là a aussi été armé intellectuellement par les manifestations dont Netanyahou était à la tête.
Mais à la surprise générale, quelques mois plus tard et malgré le traumatisme de la mort de Rabin, Netanyahou l'emporte de justesse avec 50,4% des voix.
C'est entouré par la foule que Benjamin Netanyahou s'est rendu ce soir devant le mur des Lamentations. Sa première prière de Premier ministre, comme Menahem Begin en 1981. Un geste symbolique à l'égard des partis religieux qui l'ont soutenu et qui vont entrer au gouvernement.
Et là, quelque part, il y a un basculement où on a le sentiment que c'est fini, la paix n'est plus possible du tout. Et donc, il faut voter pour la droite qui, elle, va nous amener vers une sécurité et surtout une solution militaire forte contre des gens qui veulent nous détruire.
Il y a deux idées maîtresses. C'est qu'il ne faut pas qu'il y ait d'État palestinien. C'est ça le plus grand danger qui nous menace. Si les Palestiniens ont un État, alors c'est notre fin. Et le deuxième élément, c'est qu'il faut s'emparer de la terre. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais petit à petit, nous parviendrons à nous emparer de la totalité de la Grande Palestine.
De son refus des accords d'Oslo, à son premier mandat entre 1996 à 1999, puis à son retour en 2009, où il ne va quasiment plus quitter le pouvoir jusqu'à aujourd'hui, Netanyahou a compris que le mouvement nationaliste qu'il représente avait tout intérêt à s'associer aux sionistes religieux d'extrême droite pour garder le pouvoir.
מה שהוא יעוד, וגם משהו שעדיין משאיר ליבו, אז הייתה שמה שהוא עם מה ידיעתו.
Les sionistes religieux d'extrême droite n'ont qu'un but, hâter la venue du Messie, symbole de la paix sur terre et de la reconnaissance de Dieu. Pour ce faire, selon une théorie mise en place par le rabbin Cook, grand rabbin d'Israël de Palestine dans les années 20 et 30, les juifs du monde entier doivent reconquérir l'ancienne Terre Sainte.
Je m'appelle Emil Ackerman, je suis rabbin de la communauté orthodoxe moderne à Haïeka que j'ai cofondée avec mon épouse rabbinite Myriam Ackerman Sommer à Paris. Il faut savoir que depuis -586, qui est la destruction du premier temple de Jérusalem, les prophètes, puis les rabbins qui leur ont succédé, ont convoqué de manière extrêmement régulière l'idée de la venue du Messie et de la fin de l'oppression. Une des révolutions entre guillemets du rabbin Cook, c'est qu'il inclut non pas juste les juifs religieux, mais le peuple juif dans son ensemble en disant ce qui est très important, c'est le travail de la terre, c'est faire vivre l'État d'Israël et chacun a son rôle à jouer, les religieux et les non-religieux. Et donc en ces termes, il a développé une forme de théologie très inclusive et c'est aussi pour ça qu'il a rencontré un franc succès.
Et est-ce que justement ce sionisme religieux qui prône ce retour du Messie, est-ce que ça doit se faire au détriment, par exemple, d'un autre peuple qui sont les Palestiniens, par la colonisation, par l'expropriation, par une certaine violence aussi qui est menée à leur encontre justement dans cette colonisation. Est-ce que ça, c'est quelque chose pour vous qui est admis ou pas ?
Toutes leurs religions ont leurs rabbins Et leur théologie violente, fondamentaliste, justement, ont leurs personnes et leurs instituts qui vont réinterpréter les textes de manière violente pour pouvoir justifier de certaines politiques ou de certaines visions du monde qui peuvent être des visions du monde, à mes yeux, très néfastes. Et la religion juive n'y fait pas du tout exception. Malheureusement, ceux qui font le plus de bruit aujourd'hui sont les sionistes religieux de droite et d'extrême droite. Et donc, eux aussi ont leurs rabbins qui vont réinterpréter les textes pour justifier une forme de violence. Et dans ces cadres-là, les appels à la paix sont toujours les appels à la paix du vainqueur. C'est-à-dire, une fois qu'on se sera débarrassé de nos ennemis, alors on aura enfin la paix. Et c'est ça la paix messianique dans lequel les gens... Les rabbins parlent.
La droite nationaliste sait que de toute façon, elle ne rendra pas les territoires palestiniens dans le cadre d'un État palestinien. Et donc, il faut trouver une justification idéologique à cette occupation, cette colonisation qui va durer dans le temps et dans laquelle ils ne souhaitent pas revenir en arrière. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va progressivement, et notamment ça, on le voit bien à partir des années 2000, à mon avis, on va commencer en fait à expliquer, non plus par le droit, parce que Netanyahou estime que le droit international est quelque chose de piégeux, où il sera toujours détourné pour être à notre désavantage, à nous en tant qu'Israéliens, on va le justifier par des grandes valeurs, que ça soit la Bible, que ça soit des idées religieuses. Et pour ça, forcément, on va mettre qui en avant? Eh bien, les religieux israéliens, les partis ultra-orthodoxes, etc. et d'autres. Et à l'inverse, eh bien, on va donner à ces ultra-orthodoxes-là l'opportunité, en retour, du coup, de pouvoir avoir la main sur différentes questions sociétales en Israël, les questions du mariage, les questions de l'accès ou non à la citoyenneté israélienne. Et ça va permettre de faire une espèce d'alliance, de fusion qui, jusqu'à aujourd'hui, est extrêmement puissante idéologiquement.
Aujourd'hui, dans l'offensive israélienne lancée sur Gaza, Netanyahou n'hésite pas à la justifier en invoquant les textes sacrés, quitte à tronquer leur message.
Nakshim et nevuat Yeshayahu. Lo yishama od Hamas be'artzech, shod v'shever b'gvulaych, v'karat Yeshua chomotaych, u'sha'araych tehila. Yachad nilachem, yachad nenatzeach.
Netanyahou a invoqué donc le livre d'Isaïe, le chapitre 60 d'Isaïe, pour un mot qui est dans ce verset-là, donc au verset 18, puisque c'est un jeu de mots. Il y a écrit, donc je vous le lis en français et ensuite en hébreu, « On n'entendra plus de cris de violence dans ton pays, il n'y aura plus dans tes frontières ni destruction ni calamité, tes murailles tu les appelleras sauvegarde et les portes de tes cités tu pourras t'en glorifier. » Mais en hébreu, on nous dit « Loishama od Hamas ». Donc à mes yeux, la première raison pour laquelle il a convoqué ce verset, c'est simplement l'écho « Il n'y aura plus dans tes portes de Hamas », donc c'est-à-dire l'éradication du Hamas, qui représente aussi l'archétype de la violence, puisque en hébreu, Hamas veut dire « violence ». Donc c'est la première raison pour laquelle il l'a convoqué, c'est-à-dire « Je vais enfin réaliser cette prophétie en faisant une interprétation à sa sauce, en disant « Vous voyez bien que le Hamas est personnifié, la personnification du mal et de la violence, c'est effectivement le Hamas qu'on a devant nous, et donc le but, c'est de l'éradiquer totalement. »
En tant que rabbin, vous en pensez quoi que Netanyahou, il invoque cela, il en fait un peu sa propre interprétation, qu'il utilise à des fins politiques? C'est dérangeant ou pas du tout?
Chaque juif va lire les textes et va essayer de l'interpréter et de trouver écho à ce qu'il vit au quotidien, et il va convoquer les textes bibliques puisque c'est aussi à ça qu'il servent. Après, le convoquer en conférence de presse pour justifier une guerre, c'est assez cocasse, étant donné que Isaïe est aussi un des livres dont que les rabbins et que les chercheurs appellent le livre de la révolution prophétique. C'est un livre de révolution morale où justement Isaïe est un prophète qui va énormément insister sur la fin de la violence, sur la fin de la violence entre les hommes et sur l'idéal qui est un idéal sans guerre, et aussi sur le fait que les personnes qui se disent très religieuses, très pratiquantes, si elles ne sont pas capables de mener une vie éthique au niveau personnel, eh bien Dieu leur dit que tout leur rituel religieux ne valent rien. Et ça, c'est quelque chose, les passages que les juifs lisent le plus dans Isaïe, ce sont ces passages-là, ce sont ces passages où Isaïe fait des remontrances aux personnes qui se croient religieuses en leur disant « Vous n'avez rien compris, vous faites des sacrifices, vous allez au temple et vous pensez très bien et adorer des yeux de Dieu. Mais en fait, si vous sortez de là et que vous n'ouvrez pas votre main aux nécessiteux, votre main aux pauvres, que vous vous frappez entre vous, eh bien Dieu vous dit « Vos sacrifices, vos rituels, je les ai en horreur, je les vomis, ce sont des abominations. » Et travailler, soit gamin.
1967, lorsque l'armée israélienne s'empare du mur des Lamentations. Immédiatement, le grand rabbin de l'armée, qui s'appelle le rabbin Goren à l'époque, il sonne le shofar, la trompette qu'on sonne les jours de fête, etc. Et il déclare qu'il faut raser la mosquée Al-Aqsa et reconstruire le temple. Comment dire ? Je ne sais pas si... Il y a peut-être 200 personnes en Israël qui disent il a raison, mais les gens disent mais il est dingue. Et donc, à l'époque, le rabbin apparaît comme un dingo. C'était en 67. On est en 23. Ça va faire 55 ans. 56 même. Eh bien, aujourd'hui, les gens qui disent qu'il faut raser Al-Aqsa, mais ils sont pléthores. Ils ont des écoles rabbiniques dans lesquelles ils enseignent ça. Ils ont des journaux. Ils ont des réseaux. Ils ont des élus à la Knesset. Et maintenant, ils ont des ministres. Ça résume 50 ans, un demi-siècle d'évolution.
אחדות חשובה, אהבת ישראל חשובה. המקום הזה, זה המקום הכי חשוב לעם ישראל, שבו אנחנו צריכים לחזור ולהראות המשילות שלנו.
De la fin des années 70 à 2009, Netanyahou a donc tout mis en place pour asseoir sa domination politique et idéologique. Désormais, plus rien ne peut l'arrêter. André Malraux disait « Je mens, mais mes mensonges deviennent des vérités ». C'est en suivant cette logique que Netanyahou va propager une fake news au sein de la société israélienne. En 2015, lors du Congrès sioniste mondial, il déclare que Hitler ne voulait pas exterminer les Juifs. Selon Netanyahou, l'idée lui serait venue après sa rencontre avec le mufti de Jérusalem de l'époque, Hajj Amin al-Husseini.
Hitler didn't want to exterminate the Jews at the time, he wanted to expel the Jews. And Hajj Amin al-Husseini went to Hitler and said, if you expel them, they'll all come here. So what should I do with them? He asked. He said, burn them.
Tous les grands historiens américains, tous les grands historiens israéliens disent, mais c'est une dinguerie, il invente tout.
Benjamin Netanyahou va très loin dans l'idée de diaboliser les populations arabes, jusqu'à même leur faire porter la responsabilité de la Shoah, ce qui est évidemment historiquement complètement faux. Il va aller, par exemple, jusqu'à manipuler un fait historique réel, hein, qui est que celui que les Britanniques avaient hissé comme grand moufti, donc Husseini, hein, avant la création d'Israël, donc à l'époque du mandat britannique, eh bien ce Husseini-là avait cru bon, jugé bon, de considérer que l'ennemi, mon ennemi, et peut-être aussi mon ami, et donc il avait été rencontré Adolf Hitler à Berlin. Sauf que cette rencontre-là, et ce qui a suivi derrière, ça n'a absolument pas été à l'origine de l'extermination des populations juives en Europe. Ça a été plutôt un appel d'Husseini à ce que les populations arabes rejoignent les rangs de la Wehrmacht et de l'armée nazie. Sauf qu'en chiffres, on a des chiffres aujourd'hui assez clairs qui montrent qu'en fait cet appel a été assez peu suivi d'effet et qu'à l'inverse, il y a eu bien davantage de populations arabes, moyen-orientales, qui ont rejoint les rangs britanniques pour combattre plutôt l'entrée et l'arrivée des troupes nazies et la menace que ça pesait.
J'ai une thèse. Ma thèse est assez simple. La Shoah, c'est un crime contre l'humanité, un génocide d'une taille jusque-là non commise. Bon, il y a eu des génocides dans l'histoire, mais c'est quand même un génocide industriel comme on n'avait jamais vu, commis par des Blancs sur une terre européenne qui est une terre de Blancs. Eh bien, il faut dire que non. Que l'idée originale, elle vient des bas années. Que le vrai antisémitisme n'est pas l'antisémitisme chrétien historique ou l'antisémitisme européen historique. Non, c'est les Arabes. Et c'est ça l'objectif. C'est l'Arabe qui a dit à Hitler, il faut les brûler. Donc tout ça vient de ce monde qui est le cœur des ténèbres et qui est l'islam, l'arabité, etc. C'est ça. Honnêtement, à vrai dire, peut-être que je délire sur Netanyahou, mais je ne vois pas d'autre explication de son obstination systématique à répéter ce mensonge avéré, confirmé, y compris par des historiens totalement sionistes.
Une fake news qui sévit encore aujourd'hui auprès de la société israélienne.
Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, quand vous l'avez vu dire de telles choses qui sont historiquement fausses?
C'est une tentative encore de Netanyahou de déshumaniser le Palestinien, de diaboliser le Palestinien, de coller aux Palestiniens des accusations et des crimes. C'est la tentative, la énième tentative de Netanyahou de diaboliser le peuple palestinien.
En 2018, après pratiquement 10 ans de gouvernance consécutive, Benjamin Netanyahou va achever son projet politique d'apartheid à l'égard des Palestiniens. Il fait adopter par le Parlement la loi État-nation du peuple juif.
Le plus important, c'est que ce qui est dit, c'est que dans l'État d'Israël, seuls les Juifs ont droit à l'autodétermination. Ça veut dire cet État est juif, la terre est juive, ont une nature. Ce qui caractérise l'État n'est pas son statut politique. Est-ce que c'est une monarchie? Est-ce que c'est une république? C'est pas ça qui... Ce qui caractérise l'État, c'est l'ethnicité de l'État. C'est-à-dire, et ceux qui ont des droits entiers et complets sont ceux qui appartiennent à l'ethnie, et ceux qui n'y appartiennent pas n'ont pas les mêmes droits. Une fois qu'on l'a appliqué à un droit spécifique, le droit à l'autodétermination, on peut l'appliquer à n'importe quoi d'autre.
Cette loi, pour moi, c'est l'institutionnalisation de l'apartheid, de par donner ou accorder la suprématie au peuple juif dans l'ensemble de la Palestine historique, de par donner le droit à l'autodétermination exclusivement au peuple juif dans la Palestine historique et de faire promouvoir et renforcer la colonisation israélienne en Palestine historique. C'est le moment où Netanyahou est passé à l'action en 2018 pour aller encore plus loin dans son projet colonial de coloniser l'ensemble de la Palestine historique, de territoires palestiniens occupés et de faire vider la Palestine historique de sa population palestinienne.
Yaakov, you know this is not your house.
Yes, but if I go, you don't go back. So what's the problem? Why are you yelling at me? I didn't do this.
But
it's easy to yell at me, but I didn't do this.
Yeah, you are helping. Stealing my house.
And if I don't steal it, someone else is going
to
steal it.
No one is allowed to steal it, Yaakov.
Netanyahu n'a jamais caché son souhait que le régime d'apartheid, qu'il refuse de considérer comme un terme valide pour qualifier la situation, c'est un vrai projet politique israélien de Netanyahou et de ses alliés. C'est-à-dire le fait de considérer que oui, dans ce territoire-là, des populations n'auront pas les mêmes droits, effectivement, parce que c'est à nous l'opportunité d'avoir l'ensemble des droits et du contrôle du territoire. Et en fait, cette loi État-nation du peuple juif, elle permet de renforcer ces deux points-là, politiques, et elle permet, à mon avis aussi, à l'international, de valider l'idée que Israël n'est pas un État comme les autres, c'est l'État du peuple juif, État-nation du peuple juif. Ça crée un lien quasiment indéfectible entre n'importe quel juif dans le monde et Israël, ce qui est très dangereux, évidemment, politiquement. Et en fait, si on retombe sur le début de ce que j'expliquais, eh bien, ça permet de valider, du point de vue de Netanyahou, le fait que quand on critique Israël, quand on s'oppose à Israël, on s'oppose au pays du peuple juif. Et donc, quelque part, on est antisémite. Voilà, parce qu'on crée les conditions pour attaquer le seul pays du peuple juif au monde. Là où, à l'inverse, eh bien, des pays, des courants politiques qui peut-être sont antisémites, mais si eux nous soutiennent, ils le sont moins que les autres.
It's very refreshing to have a request made to the Prime Minister of Israel that doesn't require money. How can I refuse? I accept it gladly as a sign of our growing friendship.
Pour s'assurer que la création d'un État palestinien soit constamment mise à mal, Benjamin Netanyahou va aller très loin dans sa stratégie politique. Il va alors tout faire pour favoriser le Hamas au détriment de l'autorité palestinienne. Le Hamas est un mouvement religieux émanant de l'Organisation des Frères Musulmans qui apparaît dans la bande de Gaza dans les années 80. Au début, vu comme une organisation religieuse et apolitique, les Israéliens vont favoriser son émergence dans la bande de Gaza dans le but d'affaiblir la popularité de l'autorité palestinienne.
Les Israéliens n'ont pas toujours considéré les islamistes palestiniens comme leurs ennemis. En 1981, des intégristes expulsés d'Égypte ont été autorisés à revenir à Gaza par un ministre israélien de la Défense qui s'appelait Ariel Sharon. L'année suivante, l'administration militaire a même participé à la construction de ce bâtiment, le siège de l'Union islamique, dirigé par un cheikh charismatique, Ahmed Yassine. Les dirigeants israéliens, de gauche comme de droite, jouaient les islamistes contre l'OLP.
Opposé à tout accord de paix avec Israël, le Hamas va tout mettre en œuvre pour faire échouer les accords d'Oslo.
Tous les Palestiniens, pourtant, ne sont pas satisfaits par les accords de paix. Les jusqu'au boutistes du Hamas font sauter un bus israélien au centre de Tel Aviv le 19 octobre 1994. L'attentat fait 21 morts et 40 blessés. Quelques semaines plus tard, les militants du Hamas s'en prennent aux policiers palestiniens à Gaza. Ces derniers tirent à balles réelles sur les manifestants, faisant 15 morts et 200 blessés.
Qu'est-ce que vous dites au Hamas aujourd'hui ? Qu'ils font ces actes terroristes, pas seulement contre les Israéliens, mais contre les Palestiniens, contre le processus de paix, contre les Arabes, contre la région tout entière, et c'est contre Dieu.
Malgré la menace que représente le mouvement, Israël, aidé par les Américains, va pousser le Hamas à se présenter aux élections législatives palestiniennes de 2006. C'est en tout cas ce que confie l'émir du Qatar lors d'une interview à la télé américaine en 2016.
We were asked by the Americans if we could talk to Hamas to make them participate in the election which happened in Palestine.
Face à une autorité palestinienne affaiblie et minée par les affaires de corruption et les luttes de pouvoir depuis la mort de Yasser Arafat, le Hamas remporte les élections législatives. Dans des câbles diplomatiques américains révélés par Wikileaks, Amos Yadlin, chef du renseignement militaire, avoue que le Hamas est une aubaine pour Israël afin de mettre à mal l'idée d'un État palestinien.
Israël serait heureux si le Hamas prenait le contrôle de Gaza, parce que l'armée israélienne pourrait alors traiter Gaza comme un État hostile.
Divisé pour mieux régner. Puis, Benjamin Netanyahou, qui revient au pouvoir en 2009, voit lui aussi le Hamas comme une aubaine. Lui, qui depuis toujours est opposé à la création d'un État palestinien. Pour favoriser le Hamas, Netanyahou va alors demander au Qatar, petit État du Golfe, de financer le mouvement afin de lui permettre de garder son hégémonie sur la bande de Gaza.
Je suis Guillaume Ancel, je suis un ancien officier français, je suis écrivain, chroniqueur, et je suis auteur du blog « Ne pas subir ». D'abord, je suis très méfiant avec Benjamin Netanyahou parce que pour moi, c'est un extrémiste de droite. Et jusqu'ici, il a vendu et il a menti à la société israélienne en leur faisant croire que sa politique d'une grande brutalité allait leur amener de la sécurité. En fait, on a laissé les Palestiniens dans la pire situation depuis plusieurs décennies. Netanyahou a tout fait pour que ce soit le Hamas qui prime sur la bande de Gaza. Pourquoi ? Parce que d'abord, ce sont des radicaux, et donc ça justifie sa politique brutale.
En mars 2019, lors d'une réunion privée de son parti, le Likoud, et révélée par le Jérusalem Post, Netanyahou est interrogé sur cet arrangement financier qui en dérange certains. Il va alors clairement exposer sa stratégie.
Quiconque est opposé à un État palestinien devrait y être favorable. Le maintien d'une séparation entre l'autorité palestinienne en Cisjordanie et le Hamas à Gaza contribue à empêcher la création d'un État palestinien.
Il l'a dit, il ne faut pas toucher à ça.
Tant qu'on a la Cisjordanie d'un côté, Gaza de l'autre, c'est parfait pour nous, il faut qu'on garde le Hamas. Le Hamas, pour nous, c'est une occasion formidable. Alors c'est sa responsabilité. Et puis, parce que c'est sa thèse, sa théorie, on a intérêt à ce que le Hamas garde la suprématie sur Gaza et le pouvoir à Gaza. Et puis, ça n'a l'air de rien. Et si c'est pas le Qatar qui paye, c'est qui va payer ? Ils sont puissance occupante, formellement. Pour l'ONU, ils sont puissance occupante.
Le 7 octobre, le Hamas lance son opération Déluge d'Al-Aqsa, qui fait 1200 morts, dont 800 civils et plus de 200 otages. Non seulement Netanyahou et ses prédécesseurs les ont favorisés, mais surtout, le Premier ministre a été mis au courant par ses renseignements, mais aussi par les Égyptiens et les Américains, que le Hamas préparait une attaque de grande ampleur.
D'abord, je n'ai pas cru que le Hamas allait lancer une attaque aussi bestiale. Parce qu'au fond, ce n'était pas dans ses habitudes jusque-là, des attaques très dures, très violentes, mais pas d'aller massacrer des gamins qui dansent ou des colons complètement inoffensifs dans des kibbutz. Le 7 octobre, pour moi, c'est d'abord la faillite de la politique de Netanyahou. Pourquoi ? Parce que Netanyahou a été prévenu à plusieurs reprises de l'imminence de cette attaque. On le sait aujourd'hui par des canaux israéliens, par des canaux égyptiens et par des canaux américains. Et pas trois jours avant l'attaque. Depuis plusieurs semaines et sans doute plusieurs mois, les services de renseignement avaient remonté le fait que le Hamas était en train de préparer quelque chose. Il l'a écarté parce que, et ça je le sais de sources israéliennes, à plusieurs reprises quand on lui a proposé de réorganiser la sécurité autour de la bande de Gaza, il a réaffirmé sa seule priorité qui est obsessionnelle chez Netanyahou, c'était la Cisjordanie. C'est-à-dire en aucun cas on ne doit enlever la moindre force militaire ou de police de Cisjordanie parce que pour lui, le point central de sa politique, c'était la reprise de la colonisation en Cisjordanie. Et il ne croyait pas à la capacité du Hamas de lancer une opération à partir de la bande de Gaza. En fait, ce qui est grave, c'est qu'il a surtout révélé son incompétence sur le sujet et son manque total de clairvoyance, alors qu'il ne cessait de parler de sécurité. En réalité, il l'a négligé.
Face à cette attaque, Netanyahou décide de répondre par des bombardements incessants et indiscriminés sur la bande de Gaza.
אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. הבוקר חמאס פתח במתקפת פתע רצחנית נגד מדינת ישראל ונגד אזרחיה.
Aujourd'hui, l'armée israélienne a fait plus de 25 000 morts, détruit plus de 70% des habitations et a forcé plus de 85% de la population à se déplacer vers le sud.
Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'à cause de l'offensive qu'il a lancée sur la bande de Gaza, et surtout des plus de 30 000 morts qu'il aura fait et 4 fois plus de blessés, il a garanti au Hamas son recrutement pour les 20 années à venir. Il y a toute une génération de jeunes Palestiniens qui n'aura en tête que de se venger de cette guerre-là. Et ça, c'est terrible pour la sécurité d'Israël. Pour moi, c'est une absence totale de stratégie. La bonne stratégie, c'est celle dont ils ont fait la démonstration à Beyrouth en allant tuer un vrai chef du Hamas et pas des sous-fifres. ni en faisant 10 victimes collatérales pour chaque cible visée, en allant tuer le numéro 2 du Hamas dans une frappe parfaitement ciblée, alors que la personne se croyait intouchable, et de montrer que, au fond, il avait une responsabilité dans l'attaque du 7 octobre. Son avenir, c'était de mourir. Voilà. Ça, pour moi, c'est une vraie opération de contre-terrorisme. A contrario, et c'est ça qui fait mal, parce qu'on voit bien qu'Israël sait faire du contre-terrorisme, lancer une offensive militaire massive contre un camp de réfugiés à ciel ouvert, dont les gens ne peuvent pas s'échapper puisqu'ils sont assiégés, dans lequel il y a 2,3 millions de personnes qui sont massées, et de tirer dessus avec des bombes de 250 kg, des tirs d'artillerie qui correspondent à la même chose, hein, c'est des salves de 6 obus de 45 kg, c'est exactement la même chose. Un obus sur deux, plutôt une bombe sur deux aérienne, n'est même pas guidée. Ça veut dire qu'on fait un carnage assumé. Avant même de tirer, on sait qu'on va faire un maximum de victimes, puis au milieu, il y aura peut-être quelqu'un du Hamas. Mais qui peut croire, en tout cas comme ancien militaire, que parce qu'on va s'attaquer au tunnel du Hamas, on va détruire le Hamas? Or, aujourd'hui, pour moi, ce qui est totalement inacceptable dans la stratégie de Benjamin Netanyahou et de son gouvernement, c'est qu'ils ont volontairement fait une confusion entre le Hamas, qui est un mouvement terroriste, et la population palestinienne. Et ça, ils n'ont pas le droit de le faire. Typiquement, ils ont fait plus de 30 000 morts. Il y a peut-être 3 000, 4 000 miliciens du Hamas à l'intérieur. Et encore, on ne le sait même pas. Ça veut dire que 90% des victimes de leur guerre sont des civils. Ça s'appelle un carnage.
Folie destructrice, Israël en vient parfois à tuer ses propres hommes. Près de 17% des soldats tués dans la bande de Gaza l'ont été par l'armée israélienne. Et parfois, l'armée s'en prend même aux otages qu'elle est censée libérer. En décembre dernier, 3 otages israéliens qui se sont présentés face à des soldats se sont fait tuer.
Netanyahou vend le fait que son opération va permettre de libérer des otages. Il y a 3 otages qui se présentent devant l'armée israélienne. Manifestement, il y a un ancien militaire ou un militaire parmi eux parce qu'ils prennent beaucoup de précautions. Ils se présentent torse nu pour montrer qu'ils n'ont pas de gilet explosif. Ils ont un drapeau blanc. Ils se mettent tout de suite en position de neutralité, c'est-à-dire qu'ils s'assiedent par terre pour bien montrer que voilà, ils ne sont pas en train de préparer une embuscade. Et l'armée israélienne les flingue, mais les flingue consciencieusement. Hein. Ils sont même allés chercher le troisième qui avait été blessé pour l'achever. Donc, on voit bien que les consignes de l'armée israélienne, parce que ça, c'est pas Tsahal qui en a décidé, c'est le gouvernement Netanyahou, c'est tir libre. C'est-à-dire qu'en fait, il tire d'abord et il regarde après.
Quel but Netanyahou cherche-t-il à atteindre en détruisant ainsi la bande de Gaza? Ce qui est sûr, c'est qu'avant l'attaque du 7 octobre, le pouvoir de Netanyahou était remis en cause par une partie de la société israélienne. Les manifestants s'opposaient à une réforme de la justice qui vise à empêcher les juges de la Cour suprême israélienne d'annuler les décisions du gouvernement. Le Premier ministre est également englué dans des affaires de corruption, fraude et abus de confiance. Mais surtout aujourd'hui, il semble que la conquête de la bande de Gaza ne soit plus un secret. Le 25 décembre 2023, lors d'une réunion avec les députés de son parti et rapportée par plusieurs médias, Netanyahou a pour la première fois évoqué un plan de migration volontaire des Gazaouis. Il a notamment déclaré que
« Notre problème, ce sont les pays qui sont prêts à les accueillir et nous y travaillons ».
Ces ministres n'hésitent pas à affirmer publiquement leur volonté de coloniser Gaza.
Cette guerre pour Netanyahou est une opportunité pour lui de survivre politiquement. Et d'ailleurs, c'est inquiétant parce qu'il fera tout pour rester en guerre, même si c'est sous un format et une envergure moins importante. Tant qu'il est en guerre, il peut se maintenir au pouvoir. Et il sait très bien que le jour où il arrête son offensive militaire, entre les comptes qu'il devra rendre à la société israélienne, les otages dont il n'a pas cherché en fait à épargner la vie, quoi qu'il ait raconté. La seule fois où il y a des otages qui ont été libérés, c'est quand enfin il a accepté d'interrompre pendant une semaine son offensive militaire. Netanyahou n'a plus aucun avenir politique. Et son seul horizon pour se maintenir encore un temps, c'est clairement de rester en guerre. De dire, on n'a pas le temps de parler politique, parce que vous comprenez, il y a une guerre qui est en cours.
L'ONU n'hésite plus à alerter quant au risque de génocide en cours à la bande de Gaza. Un collectif d'avocats a donc décidé de poursuivre Netanyahou devant la Cour pénale internationale en tant qu'auteur du crime de génocide.
Je m'appelle Gilles Devers, je suis avocat au barreau de Lyon, je suis inscrit au barreau de la Cour pénale internationale. Je suis le rédacteur de la plainte qui a été déposée à propos de la Palestine sous la qualification de génocide contre les dirigeants israéliens. Netanyahou est un criminel de guerre vu qu'il l'a revendiqué lui-même. Il dit « personne n'a fait autant que moi pour la colonisation » et la colonisation est définie par un crime de guerre par le statut de la Cour pénale internationale. Donc on a une facilité avec ce monsieur, c'est que on sait qu'il est dans la ruse, dans le mensonge et dans la provocation perpétuelle. Et donc il y a une institutionnalisation de l'impunité qui fait que, n'étant pas freiné, il va de plus en plus, de plus en plus. Et on est actuellement dans une fuite en avant qui justifie pleinement de dire qu'à ce jour, il mérite une accusation comme auteur du crime de génocide, concepteur et exécuteur. Et vous savez que je ne donne pas mon opinion, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais je parle du droit. Et le droit pénal international, c'est le statut de la Cour pénale internationale qui définit à l'article 8 les crimes de guerre, à l'article 7 le crime contre l'humanité et à l'article 6 le génocide. C'est-à-dire que le génocide est plus grave même que les crimes contre l'humanité. Donc c'est quelque chose qu'on ne doit jamais voir. Et de long terme, j'entends à propos de la Palestine, on dit génocide, sociocide, enfin des choses comme cela, et j'ai toujours protesté en disant n'abîmez pas les mots, il y a un sens juridique. Mais là, quand on voyait à la fois les déclarations sur le fait que les Palestiniens sont en dehors de l'humanité et qu'ils ont peur à vivre sur cette terre, et puis le systématisme des attaques contre la population civile, on avait les éléments de réflexion pour dire qu'on entrait dans la définition juridique du génocide. Et cette définition, elle reste méconnue. Je vois le débat en France, elle reste méconnue, parce qu'on en reste uniquement à la première définition qui est la destruction physique d'un groupe, d'un groupe social. Donc clairement le génocide juif par les nazis, voilà, destruction systématique physique. Mais il y a un deuxième génocide qui était théorisé dès l'époque et qui est dans la convention, dans le génocide, et qui est dans le statut de la CPI, et qui est dans la jurisprudence, qui est le génocide par la destruction des conditions d'existence de ce groupe. Et qu'est-ce qu'on trouve comme critère de ce génocide par destruction des conditions d'existence ? La privation d'accès à l'eau, la privation de la nourriture, la privation d'accès aux soins, la destruction des maisons, les transferts forcés de population. Là, il s'ajoute des bombardements, il y a des bombardements systématiques. Et tous ces faits sont concrétisés par une intention, l'intention génocidaire qui est la moitié de l'infraction du génocide et qui consiste à dire que les autres ne sont pas comme nous et qu'il y a une volonté d'éliminer ce peuple.
Mensonges, affaires de corruption, crimes de guerre et accusations de génocide. Tout cela annonce-t-il la fin du règne de Netanyahou ?
Même si demain sonne la fin de Netanyahou, et je vais être très prudent sur ça parce qu'on est loin encore d'arriver à ça, ça ne signifiera pas la fin de la droitisation d'Israël. La société israélienne, du point de vue notamment de sa démographie, donne un poids tellement important aux religieux que même si ce n'est pas maintenant, et bien dans 5, dans 10 ou dans 15 ans, on sera toujours majoritaire. En gros, l'Israël libéral laïque ne peut pas gagner sur le long terme. On voit à quel point ça amène de plus en plus à l'impunité, donc à une droitisation et un sentiment total de pouvoir faire tout ce qu'on veut sur les Palestiniens et sur leur territoire sans jamais rien risquer.
Netanyahou aujourd'hui et sa coalition avec Ben-Gvir et Smotrich qui se déclarent fascistes cherchent l'explosion totale dans l'ensemble du territoire palestinien occupé. Ils cherchent la liquidation totale de la question palestinienne. Ce que il faut comprendre, et Netanyahou et sa coalition doivent comprendre qu'il n'aura jamais une solution militaire à la question palestinienne, que cette question est une question politique, une question de droit, une question de justice, une question de liberté, une question de dignité de tout un peuple. Le peuple palestinien garde toujours l'espoir parce qu'on a cette conviction de notre cause. Cette conviction et enracinement dans notre terre. Nous n'avons pas le choix que de garder l'espoir et œuvrer vraiment pour concrétiser notre droit inaliénable à l'autodétermination.
A priori, je tendrais à dire qu'il y a une telle majorité aujourd'hui en Israël qui est vraiment, je parle des juifs israéliens, qui est engoncée dans une mentalité coloniale et une détestation des Arabes ou un mépris pour les Arabes, pour les Palestiniens dans ce cas-ci, que on peut dire que ça ne changera pas grand-chose. En même temps, on ne peut pas dire que ça ne changera rien, parce que Netanyahou a joué un rôle très important. D'un certain côté, et il faudra voir à qui lui succède. On ne peut pas exclure que s'il y avait des élections, après ce qui vient de se passer, l'extrême droite, Smotrich, Ben Gvir, ces gens-là, soit ses successeurs, on ne peut pas l'exclure. Israël est entré dans une telle pensée vengeresse, une geste tellement coloniale. Ce qui est fait au quotidien aux Palestiniens, c'est zéro. Ça ne compte pas. D'ailleurs, on ne le montre quasiment pas à la télévision israélienne. On s'en fout. On s'en fout.
אתם תומכים בטרנספר של אוכלוסייה עזתית והתיישבות יהודית ברצועת עזה?
טרנספר, מדברים על הרצון לשפר דיור לעזתים שרוצים לשפר את הדיור שלהם, שלא מוכנים לגור שם בתנאים האלה.
לשפר דיור.
Moi, je ne vais pas parier sur ce que va être l'avenir. Mais je veux dire qu'il ne faudra pas s'étonner si c'est le pire.
Un peuple ne lèvera plus l'épée contre un autre peuple et nous n'apprendrons plus la guerre.
ושופעת בין הגויים והוכיח לימים רבים וחיטטו חרבותם לעתים וחניתותיהם לממזרות לא יישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עד מלחמה
Show.